Claude Askolovitch, la revue de presse, on parle d'une robe ce matin.
La robe chemise, boutonnée par devant et souvent de jolis motifs à fleurs, qui habillait les ménagères lorsque j'étais enfant, qui fut pour les femmes une libération, puisqu'on pouvait se vêtir seul, sans besoin de cet homme qui vous boutonne le dos. Eh bien, elle nous revient branchée, me dit le Figaro. Non plus populaire, mais chic, de chez Rouge, Figaret, APC Agnès B. Et c'est une histoire sociale que me conte le Figaro, puisque la Versaillaise Agnès B. m'explique sans rire que sa robe rend hommage aux paysannes qu'elle voyait ainsi vêtues, très relevaches. Ce qui fut naturel devient colifichet. Mais c'est aussi le retour des choses, puisque cette robe de chacune fut déclinée d'une création de Dior, juste après la guerre. La chérie de taffetas bleu nuit, qui simplifiait, habilla les femmes à la cuisine, dans les publicités des années 50. Elle nous en dit des choses, cette petite robe, ce jour où nous cherchons nos repères. Le Figaro et Libération s'inquiètent de l'ENA, devenue symbole des technocrates coupés du peuple, et qu'Emmanuel Macron veut supprimer. Les énarques se défendent. Ils sont souvent boursiers, ils ne veulent pas embêter les Français. Oui, mais l'ENA, lis-je dans Libération, a écorché son âme quand elle a enseigné à ses élèves la seule logique des grands équilibres budgétaires et s'est imprégnée de libéralisme. C'est son ancienne directrice, Madame Bechtel, qui le dit. Mais il reste la question de la fonction publique. En Angleterre, rappelle le Figaro, abandonné aux anciens d'Oxford et de Cambridge, les échos croient savoir que le président voudrait former les hauts fonctionnaires désormais sur le modèle de l'école de guerre qui, dans nos armées, dont la discipline et la force, forment les meilleurs exécutants. Les échos. Encore, alors une, me disent une victoire française, puisque nous faisons mieux en termes de croissance que l'Allemagne. 1,4% prévu chez nous cette année, 0,5% chez eux. L'Allemagne souffre d'être dépendante du monde, du Brexit et des guerres commerciales, alors que nous exportons moins et avons dopé notre marché intérieur par les mesures de soutien au pouvoir d'achat offertes aux gilets jaunes. Mais ça ne va pas durer, me disent les échos, l'Allemagne est plus solide que nous. Allons, qu'ils gardent l'aurore, nous gardons la puissance. Le courrier des lecteurs de la montagne se réjouit que le rugby français, pour sauver notre 15, n'ait pas fait appel à un entraîneur étranger. Mais à la une de la même montagne, édition de Corrèze, on me dit la joie des jeunes footballeurs de Saint-Pantaléon qui sont coachés cette semaine par des techniciens venus du Real Madrid.
Et le sport français, Claude, cherche de l'argent.
Et pourquoi pas l'argent de l'alcool, se demande l'Union et l'Ardennais, car la députée Les Républicains de Reims, Valérie Beauvais, veut bousculer la loi Evin pour sauver nos clubs. Attention, je ne parle pas ici du Paris Saint-Germain battu à Nantes, comme des débutants, dit l'équipe. PSG dont la saison vire à la farce, dit le Parisien. Et seule la majesté de Notre-Dame épargne au club la une vengeresse qu'il mériterait. Mais Presse Océan ce matin est heureux. Non, on parle dans l'Union et l'Ardennais de l'étoile de Charleville-Mézières-Ardennes Basket qui cherche 150 000 euros pour simplement vivre. On parle de le FRSA, club d'athlétisme de Reims, dont les sociétaires logent en gîte rural. Le stade de Reims Football fait déjà la publicité du champagne dans un maillot aux couleurs d'une bouteille agrémentée de minuscules petits points dorés qui représentent les bulles. Faut-il quitter l'hypocrisie ou préserver cette loi Evin qui nous préserve de l'alcoolisme que les lobbies assiègent? La députée en fait partie. L'argent est une question politique. La Croix cible ces divorcés qui ne payent pas ou mal leur pension alimentaire et qui sentiront bientôt la férule de l'État. On polémique sur le milliard qui vient à Notre-Dame, souvent de grandes fortunes dont les dons seraient défiscalisés. L'Humanité et la Dépêche réprouvent. Le courrier Picard compare ses protestations à de la poussière. La cathédrale déjà ne fait plus consensus. Un historien des religions, Odon Vallet, demande aux Français de garder leurs sous. Il le disait hier dans le Dauphiné, il récidive dans la Dépêche et le Parisien. Nous devrions consacrer notre argent aux petites églises oubliées qui se lézardent et tombent. Se sentant coupable, lisant, Monsieur Vallet, j'ai lu dans La Voix du Nord qu'un appel aux dons est lancé à Flers en Escrebieux pour aider une famille dont les deux petits garçons sont morts par la faute d'une plaque électrique défectueuse qui a provoqué un incendie. C'était dimanche soir, la veille, ce n'est pas la faute à Notre-Dame si elle occupe nos esprits. Vous lirez pourtant dans l'Obs cet entretien lumineux datant de 2006 du grand historien Jacques Le Goff qui racontait ce que furent politiquement les cathédrales dans notre Moyen-Âge, réponse rationnelle au mysticisme qu'on a lu jusqu'ici, encore ce matin dans la vie. Vous lirez dans Le Point l'écrivain, non pas Philippe Tesson, mais son fils, qui nous raconte comment il escaladait Notre-Dame, Sylvain Tesson, et s'accrochait aux gargouilles sans jamais les abîmer.
Et un autre écrivain fait campagne en Europe.
Bernard-Henri Lévy, qui sillonne le continent pour jouer une pièce où il se met en scène et défend l'Union, il parle dans l'Opinion et dans l'Obs, et surtout dans Le Point, où il raconte sa rencontre avec le président illibéral hongrois Orban, dont il fait le portrait, en homme habité de remords, littérature. Les écrivains n'écrivent pas en vain aujourd'hui. Vous lirez dans Le Monde cette colère de Jean-Philippe Domecq, ce jour où Emmanuel Macron, à l'Élysée, décore Michel Houellebecq de la Légion d'honneur. Hommage rendu, dit-il, au porte-voix d'une idéologie nauséabonde dont l'œuvre témoigne du glauque. Mot dur, mais il faut prendre la littérature au sérieux.
Merci Claude pour la revue de presse.